Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. À la technique Jean-Marie, à l'animation André. Nous recevons aujourd'hui Madame Mireille Bienvenue, qui est responsable du musée de Châteaudun, qui est un musée municipal, je crois. Et donc, elle va, dans un premier temps, nous parler un peu du musée et des collections qui existent, mais qui ne sont pas forcément toujours exposées. Et puis ensuite, on parlera de l'exposition en cours, qui dure jusqu'au mois de janvier. Et après, ben, nous verrons les animations et tout ça. Bonjour, Madame Mireille, bienvenue.
Bonjour.
Vous nous présentez un peu le musée.
Voilà, donc le musée donc, est situé près du centre-ville à Châteaudun, rue Touffert. C'est un musée qui s'est créé à l'initiative de la Société Dunoise d'Archéologie, donc en 1864, qui initialement était plutôt tourné vers l'archéologie ou la peinture, et qui au fur et à mesure des années, suite à des dons, à des legs et au dépôt de la Société Dunoise en 1952, en fait maintenant a une diversité assez intéressante et riche dans différents domaines. Donc on a effectivement au rez-de-chaussée deux salles, une consacrée à l'archéologie égyptienne, qui est surtout intéressante par la datation des objets puisqu'ils sont très anciens d'avant les grandes pyramides, et qui est complétée surtout par la présence de deux momies qui ont beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai qu'une momie, on n'a pas toujours l'occasion d'en voir une. Elles sont complètement bandelettées, et donc nous avons une momie d'enfant, qui est un dépôt d'État, et une momie adulte qui nous est déposée par la ville de Fontainebleau.
D'accord, et ça fait un moment, quelles sont là ces momies?
Alors la momie dépôt d'État, c'est pratiquement depuis le début du XXe siècle. La momie de Fontainebleau, non, elle, c'est récent, ça fait à peu près, pas tout à fait deux ans, ça fera deux ans, enfin début septembre, où elle a intégré les collections.
D'accord, donc il y a une femme et une enfant.
C'est voilà, ça c'est ça, voilà.
Ouais. D'accord, mais il n'y a pas les sarcophages, si?
Alors pour l'enfant, on a le sarcophage, qui est un sarcophage en bois. Pour la momie, on n'a pas le sarcophage, puisqu'en fait, elle a été pendant une période en collection. L'origine de sa présence en France est liée à une collection privée, et elle a été dissociée de son cartonnage et de son sarcophage, qui lui n'a pas été donné à la ville de Fontainebleau. Donc il est apparemment encore dans la famille des descendants qui possédaient ce
musée. Quelle différence, vous dites qu'il y a la momie avec ses bandelettes, bien entourées. Il y a un cartonnage avant le sarcophage?
Certaines momies, oui. Certaines momies peuvent avoir des éléments de cartonnage qui sont posés sur les bandelettes, qui servent à décorer, qui sont réalisés à base d'un... Enfin, on appelle ça cartonnage, mais c'est un petit peu à tort, en fait. Il s'agit d'une sorte de stuc, donc une sorte d'enduit qui est appliqué sur un textile, qui permet d'avoir une surface qui est lisse et qui a pu avoir un décor facile à peindre. Et ensuite, la momie peut avoir un ou plusieurs sarcophages, mais là, qui sont en bois. Hein, essentiellement, en tout cas, pour l'époque romaine, c'est en bois. Mais on peut avoir tout à fait les deux.
D'accord. Oui, il peut avoir plusieurs sarcophages.
Oui, et parfois plusieurs sarcophages qui s'emboîtent les uns dans les autres.
Comme les poupées gigognes.
Tout à fait.
Enfin, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme autre collection?
Alors, donc, au rez-de-chaussée, nous avons également une salle d'histoire locale. Oui. Donc, il y a l'histoire essentiellement de la guerre de 1870 à Châteaudun. Nous présentons donc des éléments d'uniformes, essentiellement d'uniformes de pompiers, puisqu'ils ont également combattu le feu, mais aussi l'adversaire. Et puis, des tableaux, gravures, cartes postales qui vont présenter un petit peu l'histoire des combats, et surtout qui montrent les dégradations qui avaient quand même été assez importantes. Et on a des photos, des tableaux, des ruines.
D'accord. Donc ça, ce sont des expositions permanentes.
Voilà. Donc là, on est sur la partie permanente. Donc à l'étage, nous avons également donc une partie art asiatique, art islamique, avec deux collections. Une partie de la collection Tarragon, une partie collection Valofroy, et puis la dernière donation qui est Fourgeon-Sals. Et donc là, ce sont des objets d'art qui s'échelonne, qui s'étale, parce que qui s'échelonne dans le temps et qui s'étale géographiquement, on va dire du sud de l'Espagne jusque Java, Bali, un petit peu en tirant ce grand trait horizontal. Et avec également c'est une salle avec des porcelaines, puisqu'on a
des porcelaines
chinoises. Voilà.
D'accord. Oui, parce qu'il y avait un engouement pour les porcelaines chinoises pendant un moment.
L'engouement, il date. Ces porcelaines sont arrivées en France avec les compagnies des Indes, donc déjà 17e, 18e siècle. Et c'est vrai que Tarragon, on a vu une collection assez importante qui avait été a priori acquise par sa femme, mais qu'il a gardée et qu'il a donnée au musée.
Voilà, il y a une salle avec des oiseaux.
Voilà, donc on a une salle de tableaux qui est ouverte en ce moment, qui présente des peintures françaises, essentiellement 19e siècle. On a un tableau 18e. Et puis donc ensuite la partie histoire naturelle avec la collection du marquis de Tarragon, les oiseaux exotiques présentés en montage. C'est ce qui fait l'originalité de la collection dunoise. Et ça représente environ... le musée possède 2700 et quelques oiseaux présentés. On tourne autour des 1200, 1500, ça dépend des périodes. Ça dépend aussi si on a quelques mammifères exposés.
Et puis
des présentations, etc. Des thématiques surtout que l'on peut réaliser même sans exposition. Parfois, il nous arrive de réaliser des vitrines thématiques en fonction des saisons ou des animations réalisées à l'intention des enfants.
D'accord. Ou des tableaux.
Voilà, enfin, on compose en fonction de la végétation, des choses, les animaux l'hiver. On fait un petit peu tourner parce que dans les collections permanentes, dans les oiseaux, par exemple, faune locale, on ne peut pas malheureusement tous les présenter.
Il n'y a pas assez de place.
Voilà, il n'y a pas assez de place.
Et puis ça demande certainement un entretien.
Alors, un animal naturalisé se conserve relativement bien. La seule problématique, bon, d'une part, il faut éviter qu'il s'empoussière. Donc là, c'est notre rôle à nous de les nettoyer. Et puis surtout, il faut éviter les attaques parasitaires. Les petits insectes qui peuvent vivre dans les jardins ne sont pas toujours compatibles avec un animal naturalisé. Surtout les entraînes, limites.
Les
entraînes, hein. C'est un petit insecte qui ressemble un petit peu à une coccinelle, en plus petit, qui est jaune et blanc, qui vit dans les jardins, qui est inoffensif pour l'humain, on va dire, mais qui ponde des larves qui se développent sous les plumes et qui range les plumes à la base. Et quand on s'aperçoit de la présence d'une entraîne, soit c'est une exuvie qu'on trouve ou un adulte mort, ou alors c'est malheureusement que les plumes sont tombées. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est très difficile de restaurer, de réimplanter, de refixer, puisqu'elles ont été complètement rongées.
D'accord. Mais nous allons prendre une pause musicale. Nous écoutons Dutheil, Prendre un enfant par la main. Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. Nous recevons aujourd'hui Madame Mireille Bienvenue, qui est responsable du musée de Châteaudun, qu'elle occupe depuis au moins 25 ans, elle nous a dit. Donc elle connaît bien les coins et les recoins et les caves, parce que je suppose qu'il doit y avoir des caves. et beaucoup d'objets stockés qui sortent par moments et pas tout le temps. Et en ce moment, on a vu qu'il y avait les oiseaux, qu'il y avait beaucoup d'expositions, et il y a l'exposition couleur en ce moment.
Voilà, donc l'exposition couleur est une exposition temporaire qui a débuté déjà depuis quelques semaines et qui va continuer jusqu'au 4 janvier 2016 inclus. Donc déjà, si on réalise des expositions qui durent plusieurs mois, c'est aussi une façon pour nous de vraiment réaliser une muséographie assez spécifique et puis surtout de pouvoir l'animer par différents événements. Donc l'expo couleur, c'est une idée qui avait un petit peu germé dans notre tête, également avec mes collègues, depuis plusieurs années. L'idée, c'était de mettre en avant la symbolique des couleurs à travers les objets et leur fabrication. Puisqu'en fait, en fonction des civilisations, parfois, c'est une couleur qui va être développée. Et ça peut être à l'opposé, complètement à l'autre bout de la planète. Ouais. Et puis aussi, il y a eu des contraintes techniques qui ont fait que des couleurs apparaissent à certains moments, qu'elles n'existaient pas avant ou elles n'étaient pas stables. Et de ce fait, par exemple, le vert dans la peinture française au 15e ou 16e siècle existe très peu, parce qu'effectivement, les pigments verts ne sont pas assez résistants à la lumière. C'est pareil dans les textiles. Donc c'était un petit peu toutes ces informations que nous souhaitions faire passer. Et puis, à partir de ce thème, en fait, on pouvait aborder dans toutes les collections du musée, donc prendre, mettre en évidence une sorte de projecteur sur certains. Donc, on a sélectionné un ou plusieurs objets par salle. Et donc, cette exposition, en fait, intègre la totalité des collections permanentes.
D'accord. Et donc, quel genre d'objets vous avez sélectionné ?
Alors, par exemple, pour l'Égypte, si on reprend un petit peu nos collections, pour l'Égypte, on a souhaité mettre en valeur les couleurs qui figurent sur les cartonnages. Puisqu'en fait, en fonction, effectivement, le Osiris est généralement représenté en blanc. Il y a beaucoup aussi de vert pour montrer la nature qui revient et qui se reproduit chaque année. On a fait aussi un coup de projecteur sur tous les objets qu'on appelle frites égyptiennes, céramiques égyptiennes, ce bleu égyptien qui figure surtout dans les amulettes. On a un très beau pectoral, dans les ouchéptis également. Dans cette salle, alors là, c'est plus l'Égypte, mais j'ai voulu mettre en évidence le bouquero, qui est une céramique étrusque, qui est en fait très très noir avec un joli reflet métallique et qui est faite pour imiter le métal, puisqu'en fait ils étaient capables de faire de très beaux zonokoé ou récipients en métal, en étain, en argent, mais compte tenu du coût, en fait la céramique permettait d'avoir une très grande diversité et surtout de pouvoir exporter, puisqu'en fait des céramiques étrusques, il y en avait même qui étaient exportées vers la France avant l'époque romaine.
Ah d'accord. Donc c'est très vieux, c'est très vieux l'exportation. Quoi.
Voilà, l'exportation en fait, les couleurs aussi de cette exposition permettent de voir, on verra avec la céramique tout à l'heure, mais il y a énormément d'échanges et on suit en fait les civilisations, on suit les apports technologiques, c'est assez intéressant.
D'accord.
Sur la salle donc, de la guerre de 1870, on a fait un texte sur le blason de Châteaudun, les couleurs du blason et les éléments qui le décorent. Donc, dans la salle de céramique, c'est un petit peu ça en fait. On a là complètement une salle de céramique comparée, puisqu'on compare les décors dans les céramiques chinoises, mais également dans les céramiques islamiques. Et puis, tous les effets que ça a pu avoir sur les hispano-mauresques en Espagne, sur la maïolique italienne, qui revient ensuite avec des influences françaises, c'est assez intéressant.
Oui, puis c'est très chamarré.
Voilà, donc déjà, c'est très coloré. Donc, on a de toutes les couleurs dans les salles. On a choisi, on a voulu du péchu, du qui réveille. Ce qui est assez intéressant, par exemple, pour les céramiques, les porcelaines chinoises, c'est que au départ, c'est plutôt des céramiques bleues et blanches. On a ensuite des familles vertes qui apparaissent dès le XVIIe siècle, qui sont déjà dans les compagnies des Indes. Et puis, donc, il n'y a absolument pas de rose. L'émail rouge, qui est basé sur un oxyde de fer, la rouille, en fait, supporte assez mal la cuisson, cloques, écailles, etc. Donc, ils ne peuvent le faire que sous des tout petits traits ou des petites surfaces. Et en Hollande, il y a un chimiste vers les années 1650, découvre un émail rose qui s'appelle la pourpre de Cassius, parce que ce chimiste s'appelle Monsieur Cassius. Et donc, cet émail rose, qui est fait à base d'or, va révolutionner complètement les couleurs. Et donc, cette recette va partir en Chine, va être utilisée sur les porcelaines chinoises, en même temps qu'elle apparaît en Europe. D'accord. Donc, c'est un critère de datation. L'absence de rose, effectivement, permet de dire que c'est avant 1650. Et dès qu'on a du rose, obligatoirement, c'est postérieur. Donc, c'est aussi un critère de datation. Les couleurs peuvent l'être également.
Et les porcelaines chinoises sont assez fines, en général ?
Alors, elles sont très, très fines. Sur des petites tasses, par exemple, on a une transparence, on voit le jour à travers. Mais il faut savoir que pour les compagnies des Indes, elles sont plus solides que les faïences locales. enfin que les faïences françaises. Hein, la porcelaine est aussi très très solide et résistante.
Plus que la française.
En tout cas, à l'époque, elle était plus que les faïences françaises, hein, puisqu'au 17e, 18e, on n'a pas de. Le kaolin n'est pas encore exploité comme il le sera, surtout à partir du 19e siècle.
D'accord, donc il y a d'autres salles encore où vous
voilà,
donc
on a aussi, donc on a dans la salle de peinture, on accueille le travail des élèves adultes de l'école municipale d'art, qui ont fait un travail à partir des mots qui caractérisent les couleurs, par exemple outre-mer, fauve, voilà, et donc ils l'ont illustré à partir de ça. Donc c'est un petit peu une partie contemporaine, on va dire, des couleurs qui est présentée dans cette salle. On explique aussi le vert, parce que le vert dans la peinture apparaît surtout fin 19e siècle avec les pré-impressionnistes, l'école de Barbizon. Donc on a des artistes comme Prosper Galerne, hein, qui est originaire de Pathé, qui est vraiment dans cette mouvance. Donc ce sont des tableaux très très verts, hein, ou avec une vraiment pour l'impression printanier, enfin vraiment très très présent. Et c'est surtout parce que le vert est découvert, enfin on arrive à partir de cette époque-là à faire des verts très résistants, aussi bien au niveau des pigments à l'huile qu'au niveau des teintures textiles.
D'accord.
Et puis ensuite, bon, on aborde la partie effectivement histoire naturelle. On a fait réaliser des vitrines où on présente des minéraux pour montrer un petit peu la variété des couleurs dans les minéraux, dans les coquillages, dans les papillons. Et puis bon, dans les oiseaux, on traite effectivement l'origine des pigments. On a une loupe binoculaire qui permet de voir en détail des détails de plumes, des détails d'ailes de papillons par exemple. Et puis on va traiter l'origine des couleurs chez les oiseaux, puisqu'en fait la couleur peut être un message, hein, les couleurs de parade. Les très belles couleurs du faisan mâle servent à attirer la femelle.
Et souvent, c'est les mâles, d'ailleurs, chez les oiseaux.
Alors, généralement, parfois, exceptionnellement, on peut avoir une femelle qui attire le mâle, et dans ce cas-là, c'est elle qui a des couleurs très colorées. Mais effectivement, par exemple, chez le loriot, hein, qui le mâle est très, très jaune, la femelle plutôt verte, c'est assez net. Et puis, parfois, effectivement, la couleur peut apporter un autre type de message. Donc d'une part, chez les animaux, les oiseaux, mais ça existe chez les mammifères, le fait que l'animal soit immature, il va avoir une coloration différente du plumage d'adulte. Par exemple, chez les fous de Bassan, c'est très net. Ce qui lui permet de pouvoir... Les adultes vont les autoriser dans leur territoire. Ils ne sont pas en compétition pour la reproduction. Donc, on autorise encore le grand ado à vivre près des adultes sans le chasser. Il va avoir, même avec d'autres. Hein, en fait, il est toléré. Voilà. Ouais. Alors que s'il est adulte, il va être en compétition pour la reproduction. Et dans ce cas-là, le mâle va le chasser. Va être la bagarre. Donc, chez les fous de Bassan, ils ont un plumage qui va être différent la première année, la deuxième année, la troisième année. Et ensuite, ils vont passer au plumage d'adulte. On a aussi des colorations qui sont liées à l'alimentation. Par exemple, le flamant rose, sa couleur vient des petites crevettes qu'il va manger, qui contiennent du carotène, le même produit qui est dans les carottes, et qui vont teinter sa plume, effectivement, surtout la barre à l'air de l'aile qui est très colorée.
D'accord. Il y a une autre salle pour les couleurs encore.
Alors, on a aussi au fond, effectivement, on a fait des vitrines thématiques en fonction des couleurs pendant l'hiver, des couleurs de camouflage. On a une vitrine sur la couleur des végétaux. Alors là, malheureusement, dans le musée, on n'a pas pu avoir des plantes colorées. Donc, elles sont malheureusement artificielles. Mais en tout cas, on a un texte qui présente tout ça. Et puis, donc, dans la cour du musée, nous aurons des plantes qui, elles, sont tinctoriales. Donc, c'est différent. Elles ne sont pas spécialement colorées. Mais en tout cas, elles servent à teinter les textiles.
Voilà, bon, nous allons prendre une pause musicale. Nous écoutons Dvorak, enfin du moins un extrait de la Symphonie du Nouveau Monde.
Thank you.
Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. Nous recevons aujourd'hui Madame Bienvenue Mireille, qui est responsable du musée de Châteaudun. Donc, on a vu un peu ce qu'il y avait dans le musée de Châteaudun. On a vu aussi l'exposition couleur, oui. Et donc, avec cette exposition, le musée ne se contente pas de montrer et fait aussi des animations.
Voilà, donc alors des animations. Bon, de toute façon, on peut toujours. On accueille les groupes sur rendez-vous pour visiter, mais effectivement, on a réalisé des expositions en partenariat avec différents types de structures. L'idée, c'est d'animer cette exposition avec des manifestations différentes, pour les publics différents, et étaler également dans l'année. Donc la première opération qui a lieu, c'est la semaine prochaine, c'est le mercredi 29. Là, on réalise en partenariat avec une association qui s'appelle Archéologie pour tous, une animation sur l'art pariétal. Donc là, c'est les couleurs dans la préhistoire. C'est un petit peu quels matériaux l'homme préhistorique utilisait. Et donc l'idée, c'est de faire réaliser par les enfants ou les adultes sur une pierre de petite taille, de réaliser un motif avec de l'ocre, avec des teintes noires, etc. Le même type de décor. Donc là, c'est pour tous les publics. Ça permet d'animer, puisque là, nous, on n'a pas de fresques dans le musée préhistorique. Nous ne sommes pas une grotte ornée. Mais l'idée, c'est de... Voilà, la couleur existe dès la préhistoire et certainement sur d'autres supports, certainement sur la peau avec des tatouages ou des choses comme ça. Mais en tout cas, là, c'est plutôt l'art des grottes.
Surtout de l'ocre et du noir, peut-être.
Oui, c'est surtout, effectivement... Bon, au niveau préhistoire, on est sur effectivement des teintes plutôt de l'ordre du blanc, du noir et toutes les teintes d'ocre, puisque l'ocre, en fonction de sa préparation, il peut se décliner du rouge à l'orange et pratiquement au brun. On a une autre animation donc, qui a lieu pour la nuit des musées. Donc, le musée participe à cette opération. Donc, nous sommes ouverts de 19h30 à 23h. C'est gratuit pour tout le monde.
Alors, c'est quel jour, ça?
C'est le samedi 16 mai.
16 mai, d'accord.
Voilà, donc c'est traditionnellement le samedi du week-end de l'Ascension. Donc, la nuit des musées est une opération organisée par le ministère de la Culture. Donc, on l'appelle maintenant nuit européenne même des musées. Il n'y a pas que les musées français. Et l'idée, c'est de voir un petit peu les musées différemment. Donc nous, effectivement, nous aurons l'exposition couleur. Et puis, nous accueillons un travail qui s'appelle la classe L'œuvre. C'est un travail réalisé avec les écoles de Châteaudun. Donc cette année, il s'agit de l'école Curie qui a travaillé sur ce thème. Donc le principe est le même dans tous les musées, c'est-à-dire qu'une œuvre est choisie et les enfants, à partir de là, vont travailler autour de cette œuvre. Donc pour nous, on avait choisi la collection d'oiseaux et on a débuté surtout par un travail à partir des représentations d'oiseaux dans l'art. Donc nous, on était plutôt partis sur des grandes gravures qui existent ou des aquarelles, des dessins aquarellés qui existent dans les livres.
Oui.
Nous avons un livre de Gould qui présente ce travail. Et à partir de là, les enfants ont aussi travaillé sur des artistes beaucoup plus contemporains, Calder et d'autres, pour réaliser des œuvres. Donc on présentera leur travail lors de cette soirée.
Oui, parce que je pense que c'est les représentations en peinture d'oiseaux qui sont les plus fidèles que la photographie, je crois.
Ah ben oui, enfin là c'est au départ, c'était fidèle puisque c'était justement, les oiseaux étaient intransportables, on ne pouvait pas leur faire traverser l'océan Atlantique. Donc c'est vrai qu'effectivement les premières planches des soins naturels sont effectivement très très détaillées. Donc l'idée c'était de partir de là et qu'après les artistes se sont permis certaines libertés et donc on va jusqu'à l'art contemporain, ils ont travaillé sur des artistes beaucoup plus récents.
Beaucoup plus récents. Il y a d'autres animations?
Alors nous avons, plutôt à l'intention d'adultes, là nous accueillons Anne Chevet qui est une conférencière. Anne Chevet qui travaille sur Chartres et qui viendra réaliser une conférence. Donc ça c'est le samedi 30 mai, c'est dans l'après-midi, c'est à 15h. Et une conférence sur les couleurs dans l'art. Donc effectivement c'est sa spécialité, Anne Chevet. C'est toujours très imagé, très intéressant la façon dont elle explique les choses, c'est toujours très attrayant. Donc je pense qu'autour de nos collections et à partir aussi de l'art en général, puisque c'est son domaine, elle pourra apporter de façon lisible, claire, énormément d'informations auprès du public. Nous avons aussi donc pour la foire aux laines une animation sur les plantes tinctoriales, je parlais du jardin tout à l'heure. Donc là c'est une dame qui s'appelle Isabelle Dumont qui est effectivement une spécialiste des teintes végétales et qui viendra pendant les 2 jours de la foire aux laines présenter dans la cour du musée toutes ces recettes. Voilà, donc il y aura un chaudron. voilà, c'est ça. Hein, ça va bouillir un peu, ça va cuire un peu.
Ça va faire la sorcière.
Voilà, peut-être pas. Mais donc en fonction effectivement du temps, peut-être que ça sera dans la cour, peut-être que ça sera dans l'atelier. On va un petit peu s'adapter. Et dans le jardin, donc le service espace vert de la ville de Châteaudun va réaliser, parce que là c'est juste en cours de plantation, hein, puisque ce sont des plantes estivales.
Oui.
Donc pour l'instant, elles sont encore toutes petites et voilà, c'est pas caractéristique. Mais en tout cas, des plantes seront présentées qui permettront d'expliquer, de montrer quelle est la partie de la plante qui est utilisée et surtout le rendu final que ça apporte.
Oui.
Et ce sont toutes des plantes plus ou moins locales qu'on peut trouver, y compris quand on se promène sur les chemins, et, ou des plantes qu'on peut avoir dans le jardin. Comme
oui,
le
qu'on
bar.
Peut avoir de, voilà. dans le, en Eure-et-Loire.
Voilà, tout à fait. Et donc, en complément de cette partie, on va dire, un peu plus... on aura un apport, on va dire, plus technique. C'est-à-dire qu'à partir de mi-septembre, hein, jusqu'au premier jour de novembre, on va accueillir une partie complémentaire à l'exposition couleur, avec là des expériences scientifiques et des manipulations. Donc, c'est quelque chose qui sera installé pendant un mois et demi, qui est une exposition qui est réalisée par Centre Sciences, qui est un organisme au niveau régional. Et là, effectivement, ça sera présenté sur des tables et il y aura effectivement des cercles chromatiques qui tournent et qui permettent de... Avec le cercle chromatique, on arrive à la lumière blanche, on décompose la lumière, enfin des manipulations de ce type-là. Mais là, c'est plus technique, on va dire, mais ça permet de comprendre, en fait, la lumière qui arrive à notre œil.
Mmh. Oui, alors, on ne se rend pas compte.
Voilà, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Et puis, en fonction, effectivement, des perspectives, si on veut de la profondeur, on va utiliser une teinte sombre, une teinte... voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça.
Oui, les contrastes.
Voilà,
les,
effectivement.
Et le manque de contraste, ça change tout.
Voilà, ouais. Et puis, effectivement, les tests que l'on peut faire pour une personne pour voir si elle est daltonienne ou pas. Enfin, voilà, des choses comme ça par rapport aux illusions d'optique, entre autres, etc.
Oui, les illusions d'optique,
voilà,
vous aurez ça aussi.
Voilà, on aura quelques exemples, voilà.
D'accord. D'autres animations ?
Ben on sera également ouvert donc pour les journées du patrimoine. Donc cette année, elles ont lieu le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Et donc nous, pour cette journée-là, effectivement, l'exposition sera ouverte, la partie scientifique sera déjà installée. Et puis bon, bien évidemment, il y a la gratuité. Et c'est toujours l'occasion de découvrir
la
totalité des collections du musée et puis de redécouvrir une partie puisque effectivement. On fait parfois tourner les choses.
Oui, enfin, de toute façon, la visite du musée, c'est pas très cher.
Alors, la visite du musée, c'est 4,10 € pour un adulte.
Oui.
C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans inclus.
Oui.
Et puis, il y a la formule qui existe avec le pass du Pays du Noix, qui a été déjà mis en place en 2014, et qui permet, lorsque vous avez visité une première entrée plein tarif, d'avoir les autres à tarif réduit.
D'accord. Oui, donc c'est pas ruineux le musée.
Non, 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 parce que c'est vrai que bon, quand un couple visite avec ses enfants, en fait, ça fait quand même.
Oui.
Voilà.
Oui,
on a un tarif. Les musées en général ont souvent des tarifs attractifs,
attractifs
mais c'est vrai
qu'effectivement, aussi,
nous là, c'est complètement la gratuité. Donc, et on a à chaque fois, tout au long de l'année, et plus spécifiquement pour les expositions temporaires, des petits jeux qui permettent à l'enfant de regarder attentivement et de prendre un petit peu plus de temps et de regarder de façon ludique. Et de pouvoir prendre le temps et pas courir partout. Et voilà. Donc ça permet aux adultes d'avoir le temps et à l'enfant de regarder différemment et des choses qui sont plus facilement accessibles pour lui.
Et que l'enfant ne s'ennuie pas.
Voilà, il ne s'ennuie pas. Et il redemande hein, d'une année sur l'autre, ils reviennent.
Ah bon,
quel est le nouveau jeu cette année ? Quel sera le jeu aux prochaines vacances ? Oui, nous avons des fidèles.
Voilà, ben j'espère que vous aurez un nombre public et je vous engage à aller à Châteaudun, au musée. Vous voyez, c'est pas cher en plus et il y a 2 jours gratuits. Donc la nuit,
la foire aux laines, on est également gratuit et les journées du patrimoine. Donc il y a trois moments de l'année où vous pouvez
y aller pour pas cher.
Voilà,
ben merci beaucoup et ben, à la prochaine exposition peut-être.
D'accord. Merci de votre accueil. Au revoir.
Thank you.